présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Tout à fait. Le gouvernement en recevra moins et les ouvriers auront tout de même plus que 2000 francs par mois. L'enfant lui dit, bien, nous ferons comme vous l'avez dit. Merci. De toute façon, nous allons faire de très grands bénéfices avec tous ces projets. Elle lui a ouvert. Bonjour, j'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout. Il lui dit, voilà, j'ai pensé, c'est que nous pourrions manger ensemble. J'ai apporté quelques petites choses. Entrez. Il entre. Elle ferme la porte derrière lui. Il lui tend un panier. « Tenez, c'est pour le repas. » Elle lui dit « Merci, mais il ne fallait pas. » Il lui dit « Oh, c'est surtout que j'avais pas envie de faire la cuisine. » Elle regarde le panier. « Mais comment avez-vous tout ça ? Du poulet ? De la salade ? Des pommes de terre ? Du fromage ? Du beurre ? Et des petits gâteaux ? J'ai oublié le vin. » Elle lui dit « Mais ça a dû coûter une fortune. » Ne répond pas. « Vous avez reçu un héritage ?»« Non, ce n'est rien. J'ai aidé un épicier et il m'a payé en nature. »« Mais c'est votre salaire, vous auriez dû le garder. » »« Non, ne vous en faites pas, j'en ai encore chez moi. Feriez mieux c'est d'aller préparer tout ça. J'ai très faim. Et vous ?»«
Moi aussi. » »«
Alors, vous allez à la salle à manger, moi je vais à la cuisine. » Deux heures plus tard, ils sont en train de manger. Elle lui dit « C'est délicieux, mais ça doit être du luxe. Pensez-vous ? » Elle lui demande « Alors vous avez trouvé du travail ? » « Oui, mais maintenant c'est fini. C'était juste pour quelques jours. » Elle sourit et lui dit « Vous faites un repas pour fêter la fin de votre travail alors ?»«
Oui, si l'on veut. »
Puis. J'ai trouvé ce prétexte, c'est pour être près de vous.
Merci.
Il lui dit. Non, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes tellement délicieuse. Un vrai rayon de soleil dans cette vie terne. Les gens se sentent heureux, rien que par votre présence. Elle sourit et lui dit. Merci. Après le repas, il l'a aidé à débarrasser la table. Et à faire la vaisselle. Il lui dit, c'est la première fois que je la fais. Elle lui demande, même pas chez vous ? Non, jamais j'allais s'égoutter. Elle lui dit, eh bien, c'est dégoûtant. L'eau avant de s'évaporer stagne sur l'assiette et dépose des bactéries minuscules ou autres. Ce risque-ci risque de vous apporter des tonnes de maladies. Il lui dit. Heureusement que je vous l'ai dit, je ne le ferai plus. Une fois qu'ils ont fini de faire la vaisselle, ils retournent dans la salle à manger.
Ils vont s'asseoir l'un en face de l'autre.
Elle lui demande, vous voulez boire quelque chose ? Non merci, j'ai bien bu et mangé.
Qui était avec moi ?
Il y a eu un bruit, puis des cris dans la rue. Ils se sont mis à la fenêtre. C'est un immeuble qui a été triplé de balles. Des gens se mettent à la fenêtre, les autres sortent de l'immeuble. Il y a des gens allongés à terre, ils sont pleins de sang. Les gens les entourent, n'osent pas les toucher. Un homme sort de l'immeuble qui a été triplé de balles. Il est grand, fort, en pyjama, gris. Se met à crier, venez vite, il y a des blessés dans l'immeuble. Des femmes, des enfants, des hommes, venez vite. Les gens le regardent et n'osent pas bouger. Martine crie, il faut faire quelque chose, téléphoner à la pompier, à la police. Elle dit à Galien, il faut aller les aider, je vais avec vous. Elle sort de la pièce, va dans la salle d'eau, prend dans la pharmacie tout ce qu'elle a, et met dans son sac de voyage. Galien le lui prend et ils sortent de l'immeuble. Une fois en bas, elle se précipite vers les gens allongés. Galien la suit. Elle dit à la foule, si vous voulez ne rien faire, laissez la place, merci. Elle se penche vers les gens. Ils sont tous morts. Vite, elle entre dans l'immeuble. Il y a des cris, des pleurs. L'allée est pleine de monde. Des gens qui sortent des appartements. Les portes sont ouvertes. Sur le palier se trouvent des gens blessés qui crient. Elle les soigne comme elle peut, avec des pansements, de l'éther, de l'antimicrobien. Elle demande à une vieille femme, à cheveux blancs et robe de chambre rose, avec, à qui elle fait un pansement.
Pourquoi tout ça? Elle lui dit, je sais pas, c'est venu comme ça. Des hommes, un noir, ont frappé à toutes les portes et ont tué.
Les gens, pour la plupart, sont en pyjama ou presque nus. Il y a des femmes, des enfants, des hommes. Martine fait comme elle peut. Bien entendu, ne peut pas leur enlever à tous les balles. Elle fait maintenir les blessés par Galien, qui verse de l'alcool sur la plaie et avec un crochet et une pince, elle essaye d'enlever la balle. Cela fait très mal, mais elle ne peut pas faire autrement. Ils ont du sang partout, sur les vêtements, au visage. Elle va d'un blessé à l'autre. Galien la suit. Le matin, il les laisse. Une petite fille pleure en chemise de nuit avec son nounours dans les bras. Elle est blonde. Martine la regarde et voit qu'elle n'a rien. Elle la caresse et lui dit, tu vas être bien sage. Il faut que je m'occupe des blessés. Tu n'as rien. La petite fille lui dit, maman et papa s'en meurent. Martine l'embrasse et la dépose délicatement sur les escaliers. Du sang partout. Dans les appartements, c'est le carnage. Les gens morts dans leur lit. Du sang partout. Sur les meubles, les objets brisés. Les gens sont hébétifiés, pétrifiés. Galien trouve Martine merveilleuse. Elle essaye d'aider de son mieux. et lui l'aide comme il peut. La plupart des gens sont abétifiés. Ils ne l'aident pas, ils espèrent. Après une heure, ils ont pensé nettoyer les plaies, réconforter les gens, amener les enfants dans une pièce propre. Enfin, les pompiers, la police est arrivée. Gaïen furieux leur demande « Pourquoi avez-vous mis tant de temps ?» Le chef des pompiers lui dit « Il y a eu plusieurs attentats dans Paris, comme celui-là. » Gaïen demande à un policier « Vous savez qui a fait ces horreurs ?» Le policier lui répond « On ne sait pas, mais il paraît que ce sont des hommes en noir. Nous recherchons. » Gaïen a une idée et lui dit « Dans les égouts de Paris, vous avez raison, n'y avons pas pensé. » Vite, il va aux voitures donner des ordres. Descendez dans les égouts et cherchez. Et Paris est plein d'ambulances, de pompiers, de policiers, même des soldats. Dans les ambulances, il y a celle de Riquin qui vient prendre les corps, morts ou vivants, pour les déposer, et les prendre leurs organes ADN et mettre dans les congélateurs. Comme dit Danfort, de la matière première à bon marché, ADN pour les ordinateurs, les implants et les organes pour les transplanter. Surtout pour les cerveaux, les préserver précieusement. À minuit, Galia et Martine s'en sont retournés chez eux. Les blessés ont été évacués, les morts aussi, les enfants amenés dans des centres. Ils sont épuisés, sales, montent les escaliers. Elle ouvre la porte de son appartement. Galien a comme une illumination. Il est émerveillé par elle. Il lui dit « Vous êtes merveilleuse !» Il la prend dans ses bras, l'embrasse sur les lèvres et se laisse faire. Puis, elle l'embrasse. Elle l'entraîne chez elle, ferme la porte avec le pied. Elle se laisse guider à sa chambre et ne dit rien. Il voit dans la chambre, sans éclairer, mais la lumière du jour commence à pointer. Il lui caresse ses cheveux. Et la déshabille, tout doucement. Puis, il la prend dans ses bras. Et l'allonge sur le lit. Il lui caresse ses cheveux. Puis, il se déshabille. Et s'allonge près d'elle. Et doucement, il se penche sur elle. Mais nous laisserons un voile sur leur union, sur leur amour. Ils ont bien mérité quelques heures de bonheur. Et comme le bonheur est chose privée, nous attendrons qu'ils aient fini. Musique. Le voile se lève, il est de fin d'après-midi, le soleil baigne la pièce, le lit est vide, les draps et la couverture défaites, leurs corps mêlés ont laissé des traces froissées. À terre, au pied du lit, se trouvent encore les vêtements sales de la nuit, ils sont froissés et ternes. Ils sont dans la cuisine et prennent leur petit déjeuner. Nous allons les y rejoindre. Dehors, la rue est devenue calme, même plus calme que d'habitude. Des agents la surveillent, la rue est l'impasse. Martine sourit et pose son bol. Il lui demande « Tu es heureuse ?» Elle lui répond « Oui, je t'ai aimée dès le premier jour. Moi aussi, si tu veux, nous pourrions. » Il s'arrête d'un coup. Il allait dire « Vivre ensemble !» Mais c'est impossible, à cause de sa double vie. À moins de tout lui dire. Mais serait-elle assez forte pour le supporter ? Et puis, elle va penser que c'est un riche qui s'amuse avec les pauvres pour jouer le bienfaiteur. Elle va le mépriser. Elle lui sourit et lui dit « Tu voulais me dire quelque chose ?»«
Non, plus tard. »
Elle s'attendait à ce qu'il lui dise qu'il veut vivre avec elle. Elle est déçue, mais se dit qu'il n'a pas osé parce qu'il n'a rien. La police n'a pas retrouvé les tueurs. Désormais, Galien, qui trouve ce qu'a fait Martine formidable, est constamment avec elle. Ils couchent souvent ensemble et sont heureux. De temps en temps, lui fait de petits cadeaux, mais n'ose pas trop souvent. Il lui parle constamment de son émerveillement pour elle. Le temps passe, ils sont heureux. La double vie de Galien est bien réglée. Il est un peu déçu de ne pouvoir pas faire quelque chose pour les gens. Mais un jour, Martine lui dit, pendant qu'ils sont en train de manger à la cuisine, « J'ai une idée. Nous allons créer des foyers d'accueil pour les enfants orphelins du quartier, pour éviter qu'ils aillent dans des orphelinats. C'est une très bonne idée. » Ils vont chercher un local, trouvent un énorme hangar vide mais plein de saleté. Ils le vident, nettoient bien et avec les gens du quartier, mettent des lits, des tables, des jouets, etc. Galien lui dit « Je m'occupais des papiers pour les autorisations. » Il s'en occupe en allant voir le maire de Paris et lui dit qu'il ne veut pas que l'on sache que c'est lui qui est derrière tout ça. Tout est réglé. Les enfants du quartier, orphelins, reviennent dans leur quartier et sont mis chez Martine, qui est chargée de s'occuper d'eux. Les gens du quartier aident des femmes pour le repas, le ménage, laver le linge. Les institutions, comme l'école du quartier, pour les leçons. Et bien entendu, Galien, qui s'occupe de certaines choses. L'association marche bien. Galien fait en sorte à ce qu'il ne manque de rien, mange de et à manger et le reste. Il achète tout et dit à Martine que c'est des dons. Ce travail humanitaire semble les unir encore plus. Galien est encore plus ébloui par elle. Il lui dit « Tu es la madone des pauvres ». Elle lui sourit. Elle travaille énormément et a beaucoup de travail. Surtout une cinquantaine d'enfants et des bénévoles qui s'occupent d'eux, heureusement. Il y a toujours quelque chose à faire. Elle travaille énormément et a beaucoup de travail. Il voit qu'elle travaille avec joie, la joie de donner. Il se dit que lui ne pourra jamais être comme elle. Elle sera toujours plus forte que lui.
Qu'est-ce que tu crois ?
Allez, l'aviron !
Il a une sale gueule. Tu le connais ?
Les jours passent. jours de joie, d'amour, de fatigue, peine. Les quartiers de Paris repensent leurs plaies. La misère redevient une misère ordinaire, sans vague. Ce qui est peut-être pire, car l'on risque de ne plus y penser à ceux qui souffrent. Et s'ils souffrent en silence, sans vague. Martine sort de son association. Elle est seule. Galien est assis ce soir-là. Il fait déjà nuit. La rue est presque déserte. Une voiture fonce sur elle. La fait tomber. Et s'en va. Disparaît dans la nuit. Martine ne bouge plus. Couchée sur le côté. Des portes. Des fenêtres s'ouvrent. On s'approche d'elle. Un homme se penche. Lui touche le visage. Elle ne bouge pas. Faut vite appeler une ambulance. Il a tout juste eu le temps de le dire. Une ambulance a débouché dans la rue, s'est arrêtée. On est sorti deux brancardiers et un brancard. Les brancardiers disent « Laissez-nous passer !» Ils le laissent, ils déposent sur le brancard le corps de Martine qui est mis dans une ambulance. L'ambulance est partie en vitesse. L'ambulance est arrêtée devant la clinique Riquin. Le corps est mené en vitesse dans la salle d'opération. Il y a déjà des infirmières et des médecins. Riquin dit, déshabillez-la. Et on la déshabille.
Deux jours plus tard, Ricain va dans son bureau.
Allô? J'aimerais parler à monsieur Danfort. Je suis Ricain. Allô, Danfort, c'est Ricain. Dis donc, elle était enceinte. Qu'est-ce qu'on fait? Danfort lui dit, gardons le fœtus de l'élu. Même si c'est uni à n'importe qui, c'est tout de même son fœtus. Le reste, nous vous y jetez. Attention, personne ne doit le savoir. L'élu non plus. Brûlez tout, sauf le fœtus. C'est pas chez nous qu'elle a été menée. Nous sommes au courant de rien. Ricain lui dit, bien, nous ferons comme vous le dites. Et Danfort raccroche. Il y a dans son bureau un homme de taille moyenne, cheveux noirs dans les 40 ans, habillé d'un costume gris foncé. Danfort lui tend une enveloppe. Tenez, merci. Danfort lui dit, ça s'est bien passé. Oui, pas de problème, la rue était déserte. Donc personne n'a vu. Non, et l'ambulance est venue rapidement. Elle était deux rues plus loin. Danfort lui demande, elle a souffert. Non, ça s'est passé trop vite. Bien, du bon travail. Vous êtes un bon militant, militaire même, des sept soleils. Vous serez récompensé bientôt. Vous comprenez, il fallait l'achever. Elle faisait perdre beaucoup trop de temps à l'élu. Et en plus, cette idiote, c'était enceinte de l'élu. Comment en aurions pu faire pour l'enfant? L'enfant de l'élu, en plus, qui a de l'ADN de Dieu. Elle aurait fait ce jeûne un jeûne rappeur ou autre. L'homme lui demande, qu'allez-vous faire du fœtus? Nous allons le garder, et le jour où nous avons besoin d'un élu, nous le mettrons en route. Mais pour notre projet, nous n'avons pas besoin de petits rien du tout. Le lendemain matin, Galien va dans l'allée de son petit studio. Le concierge le coince.
Oh mon pauvre monsieur, il est arrivé un grand malheur. La petite demoiselle a eu un accident hier au soir.
Galien demande. Que s'est-il passé?
Elle était renversée par une voiture. C'est terrible.
Et où est-elle en ce moment? Le concierge lui dit,
une ambulance l'a amenée.
Quelle ambulance?
Je ne sais pas, une ambulance.
Galien court à son bureau. Il téléphone aux pompiers, ce n'est pas eux. SAMU non plus. Il téléphone aux hôpitaux, aucune personne de ce nom.
A-t-elle pu être mise? Il essaye les cliniques. Rien non plus. Il téléphone à la police. Pas au courant. Là, il ne sait plus quoi faire. Il essaye les hôpitaux plus loin que Paris. Les cliniques. Rien, rien. Anxieux, Il attend pendant des jours dans son studio. Demande aux gens du quartier. Voit dans la boîte aux lettres. Rien. Après une semaine, il va au commissariat pour faire une déclaration. Le policier qui est à la banque lui demande « Vous êtes de la famille ?»« Non. » « Son concubin ?»« Non. » « Son ami alors ?»« Bon, vous dites qu'elle a eu un accident et qu'on ne sait pas où elle est. » Parce qu'elle est partie en ambulance. Bon, ben, si elle est partie en ambulance, il faut attendre les nouvelles. Mais cela fait plus d'une semaine qu'elle a disparu. Attendez encore. De toute façon, des disparitions, il y en a des milliers par jour. Et pas qu'en ambulance. On ne sait pas ce que la France devient. Les gens disparaissent comme ça, comme en Afrique. Nous n'y pouvons rien. C'est la vie. Des fois, ils réapparaissent entiers ou avec des choses en moins. Surtout, c'est le corps et le cerveau. On dirait que des cannibales les bouffent. Ils sont dans un tel état. Dans la ville, il y a un spécialiste. C'est un éventreur. Lui aime prendre le corps. Si votre femme a été prise par lui, il ne reste plus qu'à l'enterrer, enterrer les restes. Remarquez que lui les tue chez elle. Si vous n'avez rien trouvé chez elle, c'est que ce n'est pas lui. J'ai des photos de son travail. Un jour, un mari est venu me dire que sa femme avait été éventrée par l'éventreur. C'était faux, car l'éventreur le fait d'une certaine façon. Oui, oui. Il se sert de ciseaux et de burins. Là, c'était fait avec une scie. Quelqu'un dégoûté lui dit « Bon ben, je vais attendre. Au revoir, monsieur. » Et il s'en retourne chez lui. Le lendemain matin, dans son bureau. Allô, pouvez-vous dire à M. Danfort de venir me voir de suite? C'est très urgent. Merci. Entrez. C'est Danfort. Venez vous asseoir, monsieur Danfort. Bien, monsieur le président. J'aimerais, c'est que vous me cherchiez une jeune fille, Martine Combes, qui a disparu il y a 10 jours de chez elle. Elle a été renversée par une voiture. Une ambulance est venue, l'a cherchée et a disparu. J'ai téléphoné de partout, et pas de cette jeune fille, nulle part. Pouvez-vous faire les recherches?
Oui, monsieur.
Bien. Dès que vous avez quelque chose, vous me le dites.
Bien, monsieur.
Vous pouvez disposer. Passe et toujours pas de nouvelles. Galia est dans tous ses états. tous les jours dans le quartier de Martigny. Demande au concierge.
Rien, monsieur. Il ne reçoit même plus de courrier et personne ne la demande.
Aux commerçants, aux gens du quartier. Mais personne ne sait rien. Il déprime complètement.
Là-bas.
Il passe des heures dans son studio à faire les 100 pas comme un ours en cage. Un jour, Danfort va le voir à son bureau.
Entrez. Bonjour, monsieur. Entrez, monsieur Danfort. Venez vous asseoir.
Vous avez du nouveau ?
Oui.
Je vous écoute.
Eh bien, on l'a retrouvée. Malheureusement, elle est décédée, morte sur le coup.
Où est-elle ?
L'enfant lui dit. Le corps a été brûlé par l'hôpital il y a de cela 15 jours.
Galien ne sait plus. Il demande. Dans quel hôpital a-t-elle été amenée ?
Dans une clinique de la banlieue parisienne. Il n'y avait plus de place ailleurs. Et elle était déjà morte.
Le nom de la clinique ?
Sainte-Marguerite.
Comment se fait-il que je ne l'ai pas su pour que je ne l'ai pas su plus tôt ?
On croyait la personne sans famille et toute seule.
Qu'elle lui dit ? Elle avait une tante en Bretagne.
L'enfant lui dit, personne ne le savait.
Galien lui dit, bien, merci, je vais prévenir la tante et je m'occupe de ses affaires.
C'est ce qu'il fait.
Mais une fois qu'il est remis de ses émotions, il trouve louche cette histoire. Mais il sait que s'il demande des explications à Danfort, il n'en aura rien de plus.
Les jours passent.
De plus en plus de personnes demandent à leur médecin à ce que leur ADN aille d'un corps à un autre pour être immortel. Les médecins surpris donnent l'adresse de Genetou à leurs patients. On les reçoit, on leur fait signer un papier comme quoi ils font don au groupe Gentoo de leur ADN et qui donne une partie de leur héritage, plus 700 000 francs d'inscription. Une fois que la personne est morte, le laboratoire prend le corps pour prendre l'ADN et le mettre dans un autre corps, de préférence d'enfant et, ou même de fœtus. Le fait ficher, et lorsque le nouveau corps sera mort, l'ADN du sera pris et mis dans un autre, etc., etc. Et ceci jusqu'à la fin des temps. À chaque fois, le receveur donnera une certaine somme et il signera le même papier de don du corps et de l'ADN. Ce genre de choses marche bien. Il y a beaucoup de demandes. Et il faut chercher de suite des receveurs. Alors, on va dans les hôpitaux. L'on demande à des mères enceintes de donner leur enfant au groupe Gentoo pour une certaine somme. Leur bébé ou fœtus. Pour ces fœtus ou bébés, ils sont gardés, soignés jusqu'à ce qu'il y ait un ADN à leur mettre. Mais si le bébé a trop grandi, on le met à l'orphelinat où l'on s'en sert pour lui prendre ses organes et les vendre. On leur prend surtout le cerveau, son ADN. On en fait des mutants. Des chimères. De toute façon, ça peut toujours servir à quelque chose. Beaucoup de gens demandent à avoir une seconde vie, riche et être beau, et choisir son sexe. Pour le sexe, ça peut aller. Mais riche et beau, beau, on peut choisir un beau bébé. Mais de là à ce qu'il soit riche, alors, dans les cas très particuliers, où les gens payent très cher, on va dans les cliniques très chics. On cherche des femmes qui ont mis au monde des bébés et qui sont issues d'une très bonne famille. Et à l'insu de la mère, l'on met l'ADN du mort. C'est comme un alien que l'on mettrait dans le corps. Prend le bébé qui est en couveuse sans la mère et on fait l'opération en notant bien le nom et l'adresse du receveur. Car le receveur est suivi durant toute sa vie pour que l'on sache dès sa mort pour qu'on lui mette l'ADN dans un autre corps. Le tout est fait par les membres des Sept Soleils qui font embaucher comme infirmières, infirmiers ou médecins dans les cliniques bon chic. Tout ceci donne du travail. Il faut tout noter. Le parcours ADN sur informatique pour ne rien perdre. Vous me direz que ce n'est pas le mort qui a donné son ADN le premier qui va se plaindre parce qu'on a perdu son ADN. Mais les chez Gentoo l'ont fait tout sérieusement. Chaque ADN aura son arbre généalogique. Comme cela, si c'est un héritier ou un membre de la famille du donneur demande où se trouve l'ADN de son père ou de sa femme ou de son grand-oncle, on pourra lui dire « En ce moment, il se trouve dans le corps d'un tel, etc. » Mais si la personne demande à voir la personne qui a l'ADN de l'ancêtre, là c'est un peu compliqué. Jeune Tou sera obligé de préparer cette rencontre. Aller chez le receveur et lui dire « La famille de votre ADN qui a été greffée désire vous rencontrer. » Cela risquerait de faire un choc. La rencontre se fait dans un endroit neutre. Un café, par exemple. Le membre de la famille dirait « Je ne vous voyais pas comme ça. Est-il bien soigné ? Il aimait beaucoup le café. Est-ce que vous en faites ? Non, pas du tout. Comme c'est dommage, il doit être déçu.
Madame,
bonjour,
s'il vous plaît.
Je suis la tante de votre ADN. Qu'on vous a mis. Je viens
j'ai
voir comment il va.
Une vitesse aujourd'hui.
Il va très bien, il se porte très bien. J'ai eu une petite grippe,
non,
mais ça ne l'a pas ennuyé.
C'est bizarre, c'est quand on a mal dormi qu'on a
l'air. Vous portez une petite culotte rouge. Il n'aimait
pas,
pas le
mal
rouge.
Dormi, c'est pas ça, non.
Je suis vraiment navré. Vous voulez du thé ?
Devine qui est venu me voir.
Non.
Quand ?
Lui non plus.
Alors,
n'aimait pas le thé.
Un sandwich aux gruyères pour moi. Et pour moi, croque-monsieur,
il ne vous a pas donné ce qu'il aimait.
Un crudité varié, c'est bien. Ça ira comme ça, croque-monsieur.
Je vous ferai la liste.
Pour boire un café, là.
Pouvez-vous
oui.
faire
café,
visiter la maison où il vit ? Bien volontiers, puisque c'est la mienne.
Vous pouvez m'amener le sandwich d'abord, hein.
On vous a donné combien pour le prendre en pension chez vous ?
70 000.
On m'avait dit plus.
De toute façon, là, elle apportera tout en même
mais
temps.
Mais ils prennent
même
la commission,
si
etc.,
oui, c'est pas grave,
etc.
Et puis moi,
pour le moment, ce genre de conversation
lui,
peut paraître, disons,
c'est
idiot.
Moment, je me demande si tu crois ce que tu dis.
Mais l'on ne sait jamais. Une semaine après que j'ai écrit cette scène, je dis bien une semaine après que j'ai écrit cette scène, dont je ne le savais pas, je regarde sur Arte, le mardi 8 septembre 1998, vers les 20h10, Archimède. Et je vois un chercheur scientifique américain qui a eu le prix Nobel, je crois, pour des recherches qu'il a fait sur l'ADN, etc. Ce savant ne fait plus de recherches, il passe son temps en Floride à jouer sur la plage avec de beaux jeunes gens, ou à écrire des choses sur les mœurs et les affaires des scientifiques. Et en plus, il a un projet qui correspond à ce que je vous ai dit. Il veut vendre de l'ADN de gens illustres, comme Marilyn Monroe par exemple. Il dit « Pourquoi est-ce que les gens ne feraient pas la collection d'ADN comme ils font la collection d'autographes ?» Il attend d'avoir l'autorisation de le faire et se lance dans cette affaire. Je vous jure que lorsque j'avais l'intention d'écrire ce que je vous ai lu, je ne le savais pas. Pour Violence et Crépuscule, j'ai écrit très vite parce que j'avais l'impression d'être dépassé par les événements. Et là, c'est la même chose. Tout va si vite. Je plains ceux qui font de la science-fiction. L'ADN est devenu un produit très recherché, comme un métal très rare. Le monde entier se met en guerre. Les pays cherchent à avoir le plus d'ADN possible de grands hommes. Les pays envoient pour prendre des ADN en fraude pour les ramener au pays.